Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web à graphite.net. Je suis Quentin Duchemin et je suis en direct au studio aujourd'hui avec quatre étudiantes de l'Université de Technologie de Compiègne, Swan, William, Jimmy et Titouan. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Alors on se retrouve pour des émissions autour du cours WE01, questionner le web de l'UTC, dont le contenu est par ailleurs librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui, les étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, chaque binôme va vous proposer un passage en trois temps. D'abord, une vulgarisation d'un concept vu en cours. Ensuite, la synthèse d'un article scientifique ou d'investigation. Et puis enfin, une articulation critique du concept et de l'article. Pour cette troisième et dernière émission, vous allez découvrir deux facettes du web. D'un côté, la culture libre incarnée par Wikipédia et attaquée par de nombreux acteurs. De l'autre, les pratiques des géants du numérique qui rendent addicts et leurs origines méconnues. Swan et William, c'est à vous pour cette première partie de l'émission.
Imaginez que vous vouliez raconter Le Petit Prince à votre manière, en le transformant en bande dessinée ou en vidéo animée. En France, ce n'est pas possible librement. Même si le livre date de 1943, il est encore protégé par le droit d'auteur jusqu'en 2033. Mais aurait-il été possible d'éviter cela ? La réponse est oui, grâce à la culture libre. La culture libre est un mouvement qui défend la liberté de partager, modifier et redistribuer des œuvres. Elle s'étend à des domaines comme l'art, l'éducation ou la recherche. Son objectif est clair, éviter que le droit d'auteur n'empêche l'accès à l'information ou la création collective, comme expliqué sur la page Wikipédia de la culture libre. Les œuvres de culture libre, textes, vidéos, musique, images, sont encadrées par des licences libres. Une licence est un contrat juridique que l'auteur propose au public. Elle permet d'utiliser une œuvre sans demander d'autorisation, tant que les conditions sont respectées. Les Creative Commons, créés en 2001 par un collectif de juristes et d'activistes, sont parmi les plus connus. Elles ont pour objectif de fournir des outils juridiques simples et adaptés au numérique afin de favoriser le partage et la réutilisation des œuvres, comme le résume Stéphane Croza sur la plateforme librecours.net. Par exemple, la licence CC by SA autorise l'utilisation et la modification d'une œuvre à condition de citer l'auteur et de partager les œuvres dérivées sous la même licence. Cela empêche quelqu'un de s'approprier un travail libre et de le refermer sous une licence restrictive. C'est ce qu'on appelle une logique de contagion. Des exemples plus concrets cités par Stéphane Croza dans son cours sur la culture libre sont par exemple Wikipédia, où chacun peut contribuer ou réutiliser des articles librement dans le respect des règles de la licence CC by SA, Dogmazic pour la musique libre, Framatube pour les vidéos, et HAL qui donne accès à des articles scientifiques en accès libre. Les licences libres ne suppriment pas le droit d'auteur, mais le renversent. Tout est autorisé par défaut dans les limites fixées par l'auteur. Alors que dans le droit classique, tout est interdit, sauf exception, citations, usages pédagogiques, etc. Ainsi, la culture libre est un moyen puissant de faciliter l'accès à la culture et de stimuler la création collective. Par exemple, un musicien peut reprendre une œuvre sous licence libre et en faire un remix. Ou encore, un enseignant peut intégrer une vidéo libre dans son cours.
Elon Musk est en guerre contre Wikipédia et propose 1 milliard de dollars si le site change de nom. Pour commencer, voici le cycle de fonctionnement d'Elon Musk. S'énerver contre quelque chose, tweeter, passer à autre chose, répéter à l'infini. Cette fois, c'est Wikipédia le problème, d'abord parce que l'encyclopédie a une bonne image, car elle lutte contre la désinformation, alors que X est visé par l'Union Européenne pour diffusion de fausses infos. Il y a aussi eu pas mal de tensions entre Musk et Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, ce dernier ayant critiqué le milliardaire sur son choix de certification payante sur le réseau social. social. Et enfin, parce que sur la page dédiée à Elon Musk, le milliardaire est pas très content de voir que la section polémique est longue comme 6 fois mon bras. Du coup, étape 2, tweeter. D'après lui, l'encyclopédie mettrait de fausses infos sur sa page et ferait la promotion d'une politique wokiste. Il propose à Wikipédia de leur verser 1 milliard de dollars s'il se renomme Dickipédia, qu'on peut traduire par... Ouais non, on va pas traduire. Et même si l'encyclopédie demande régulièrement des dons à ses lecteurs, elle n'a pas répondu à la proposition. Bon, il devrait passer à autre chose la Musk du coup, non ?
Bien du coup d'écouter en fait un short du Parisien qui nous permet en fait d'introduire un article publié par Olivier Echtereid le 23 janvier 2025 s'intitulant Worldwide Wikipédia, pourquoi il faut à tout prix défendre Wikipédia. Dans cet article, on nous interpelle sur la menace qui pèse sur Wikipédia, puisqu'en effet Wikipédia est victime d'un boycott provenant d'Elon Musk, appelant en effet à couper les dons faits à Wikipédia, qui sont la base même de son fonctionnement, sous prétexte que Wikipédia serait de gauche et wokiste. Tout d'abord, aucune étude n'a permis de mettre en évidence une telle affiliation. Cependant, sur le réseau social X, dont Elon Musk est le propriétaire, les utilisateurs sont délibérément exposés à plus de contenus d'extrême droite, notamment lors des récentes élections en Allemagne, où 64% du contenu politique recommandé soutenait l'AFD, qui est un parti d'extrême droite, ne cachant pas ses affiliations néo-nazies. Cela montre bien qu'Elon Musk boycotte une encyclopédie soi-disant d'extrême gauche pour défendre tout simplement ses idées politiques qui sont elles d'extrême droite. De plus, il accuse Wikipédia de désinformation. Comme tout réseau social, Wikipédia est bien victime de campagnes de désinformation. Mais elle met bien plus de choses en place pour lutter contre celle-ci, comme par exemple la restriction d'édition des nouveaux utilisateurs ou encore via le blocage de certaines pages afin de, les protéger des guerres d'édition. En comparaison, une nouvelle fois sur X, 1200 employés associés à la modération ont été licenciés depuis le rachat d'Elon Musk, laissant la possibilité à n'importe qui de répandre n'importe quelle fausse information sans jamais être inquiété. Elon Musk est aussi visité par une enquête de l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des médias en France, pour avoir manipulé l'algorithme de X afin de mettre en avant ses propres idées. Finalement, comme le surnomme Donald Trump, Elon Musk est le plus grand capitaliste de l'histoire de l'Amérique. Et en tant que tel, Wikipédia ça le dérange, car elle incarne l'opposé complet du capitalisme. Il s'agit d'un espace non commercial basé sur le partage de connaissances. Wikipédia est en effet basé complètement sur le don de particuliers ou de ceux de grandes entreprises comme Apple, mais aussi sur la participation bénévole des utilisateurs pour fonctionner. Ce principe s'oppose totalement au principe capitaliste d'Elon Musk.
Comment ça fonctionne Wikipédia ? Wikipédia se présente comme un projet d'encyclopédie collective en ligne, universelle et multilingue, visant à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. Pour ça, l'encyclopédie peut compter sur une armée de bénévoles. Dans le monde, on en compte plus de 115 000, dont près de 17 000 en France. Pour publier en ligne, les contributeurs doivent respecter un certain nombre de règles établies par la fondation Wikimedia qui héberge l'encyclopédie. On a par exemple apporté une source fiable aux informations, respecter le droit d'auteur ou encore conserver un point de vue neutre. Une fois que l'article est en ligne, des étapes de vérification permettent d'éviter les erreurs factuelles, les tentatives de falsification ou bien les fautes d'orthographe. La première vérification, elle est effectuée par des robots et la deuxième par des bénévoles qu'on appelle des patrouilleurs. Certains de ces contributeurs ont des droits supplémentaires, on les appelle les administrateurs. Ces derniers peuvent bloquer une page ou bien un contributeur lorsque les règles de l'encyclopédie ne sont pas respectées. Bon, malgré tout, Wikipédia n'est pas infaillible. Les petites pages ne sont pas aussi bien vérifiées que les plus importantes. Des groupes militants s'immiscent parmi les contributeurs pour faire progresser leurs idées.
On a ici écouté du coup un extrait de West France qui permettait en fait de comprendre la modération chez Wikipédia.
Donc maintenant que nous avons vu ce qu'est la culture libre et résumé l'article d'Olivier Hertscheid sur la défense de Wikipédia, il est important de comprendre pourquoi l'attaque menée par Elon Musk représente une menace sérieuse pour ce modèle. D'abord, il faut rappeler que Wikipédia est un pilier de la culture libre. C'est une encyclopédie gratuite, collaborative, non commerciale, financée par des dons et rédigée par des bénévoles. Ce qui est inquiétant dans cette attaque, c'est qu'Elon Musk tente de délégitimer une source de savoir libre qu'il ne peut pas contrôler. Il défend un modèle où le savoir est centralisé, filtré par des algorithmes qu'il manipule, alors que Wikipédia fonctionne à l'opposé, de manière ouverte, transparente, avec une modération collective et vérifiable. Et ce n'est pas la première attaque contre elle. Plusieurs gouvernements ou figures publiques ont déjà tenté de censurer ou décrédibiliser Wikipédia, comme le montre la journaliste Emma Bougerolle sur le média Basta.
On pense ici à la Turquie qui a bloqué complètement l'accès à Wikipédia pendant plus de 3 ans car la communauté de Wikipédia refusait de modifier certaines pages déplaisant la Turquie car mettant en avant un possible lien entre la Turquie et le terrorisme, d'après Anne Odler sur Radio France. Wikipédia est particulièrement résiliente à ce genre d'attaque de par son fonctionnement en logiciel libre et licence libre. Cela permet de créer des forks de Wikipédia. Les forks sont des copies d'un projet initial afin de lui apporter des modifications sans tuer le premier projet. Ce fonctionnement apporte aussi une grande transparence, car le code est parfaitement accessible, ce qui évite ainsi les manipulations discrètes d'algorithmes, comme l'a fait Elon Musk. Cette capacité à être forkée permet de résister à une autorité centrale telle que voudrait l'imposer Elon Musk. De plus, si Wikipédia était trop en difficulté, sa communauté pourrait simplement recréer l'encyclopédie et laisser l'ancienne dépérir. Comme je l'ai dit, toute personne peut recréer et s'approprier un projet, et ce, même l'extrême droite. Il existe par exemple des copies de Wikipédia, comme Info Galactique, qui se veut libre de tout biais progressiste, mais en réalité une encyclopédie supportant l'extrême droite et étant anti-wokiste. On peut ainsi voir que cette liberté permise par le fork est à double tranchant. Elle peut être aussi bien utilisée pour une noble cause que pour des raisons plus que douteuses. On peut alors se demander s'il est possible de limiter l'utilisation de ces libertés sans pour autant en altérer son principe. On pourrait par exemple accorder cette liberté aux entités considérant comme défendant de bons principes, mais cela soulève deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'il est impossible par définition d'empêcher le fork à qui que ce soit. Et ensuite, qui serait en mesure de décider qui mérite cette liberté ? Par exemple, je pourrais penser que Wikipédia mérite de pouvoir être recréé, mais Elon Musk semble penser l'inverse. Alors finalement, qui décide ? Le risque ici, du coup, serait qu'un régime totalitaire, par exemple, prenne ses décisions, ce qui lui permettrait de contrôler les informations émises et disponibles sur Internet, ce qui serait une grave menace pour nos libertés. En conclusion, défendre Wikipédia, c'est défendre la culture libre elle-même. C'est préserver un espace numérique commun, accessible à tous, où la connaissance n'est pas un produit marchand, mais bel et bien un bien collectif. Et c'est face aux tentatives de monopole comme celle de Musk que défendre Wikipédia devient un acte essentiel.
Merci beaucoup Swan et William. On va tout de suite passer au deuxième binôme. Jimmy, Titouan, c'est à vous.
En donnant à des millions de personnes les moyens de créer des expériences persuasives grâce à la technologie, nous aurons des milliers, voire des millions de forces qui œuvreront dans un monde meilleur, pour un monde meilleur. Voici ce que disait Fogg, alors chercheur à l'université de Stanford dans son livre « Persuasive Technology, Using Computers to Change What We Think and Do » à propos des bienfaits du design comportemental. L'utilisation des outils du numérique dans l'objectif de modeler les comportements a donné naissance au terme de captologie. Par exemple, l'utilisation des outils du numérique pour influencer des bons comportements, comme faire du sport avec toutes les applications type Strava, etc. Ou encore pour prendre ses médicaments, comme les personnes atteintes de diabète qui ont des rappels, des notifications pour les aider à suivre leur traitement. Cela représente l'essence de la captologie selon Fogg.
Vous l'aurez donc compris, en tout cas vous commencez peut-être à le comprendre, la captologie elle s'intéresse à une forme douce d'influence. En effet, ici, il n'est pas du tout question de manipulation ou de coercion, dans le sens où il n'y a pas de contrainte directe qui est imposée sur les individus. Mais c'est plutôt une persuasion du comportement par la suggestion et par l'encouragement. La persuasion, elle peut agir sur plusieurs aspects de la vie de l'utilisateur. D'abord sur le comportement, comme faire du sport, s'informer, consommer et se nourrir, ou encore économiser de l'argent ou jouer à un jeu vidéo, mais aussi sur les attitudes, comme faire changer une perception ou une opinion, cette opinion peut être politique, idéologique, ou encore créer une préférence ou renforcer un engagement. Comme avec par exemple les abonnements, on pense notamment aux applications qui ont de nombreux concurrents tels que Netflix, Deezer, Spotify, etc. Et puis enfin, les habitudes, comme le fait de chercher à installer des routines, comme par exemple l'ouverture de cartes Pokémon avec l'application Pokémon TCG Pocket, les dates de publication de contenu de certains youtubeurs, l'automatisation des gestes comme la prise de médicaments par le rappel via des notifications ou encore le scrolling sur TikTok. Et puis enfin, le fait de créer la fidélité du consommateur dans le but d'assurer la pérennité d'un contenu ou d'un outil.
La captologie, elle se présente comme un champ universitaire généraliste et selon Fogg lui-même, largement ignoré. Si elle a refait surface ces dernières années, c'est particulièrement sous l'impulsion de Nir Eyal, ancien étudiant de Fogg, qui dépeint une vision plus industrialisée du concept de captologie ou design comportemental.
Dans cette optique de modification des comportements au sens large et de la création d'habitudes, le modèle Hooked de Eyal permet de définir les grandes étapes de la mise en place des habitudes. On retrouve pour commencer la réalisation d'un geste simple qui est généralement facilité par des interfaces épurées et faciles d'utilisation. On pense notamment à TikTok, Instagram ou X, où le scrolling est le principe essentiel de ces applications et il nécessite qu'un seul mouvement du doigt. On pense aussi aux systèmes d'alerte comme les notifications ou encore aux systèmes de récompenses aléatoires, comme par exemple le système de likes, de commentaires ou, si on reprend notre parallèle des cartes Pokémon, avec des cartes Pokémon qui sont plus ou moins rares. La rareté et l'urgence, elles permettent de créer un sentiment de manque quand la récompense n'arrive pas ou qu'elle n'est pas assez grande, ou bien en un nombre d'utilisations limité, par exemple avec un système de cœur ou un nombre de parties limitées d'un certain jeu. Et enfin, il y a l'influence sociale, c'est-à-dire montrer aux utilisateurs ce que les autres font dans l'optique de créer une émulation d'influence.
C'est cette vision de la captologie qui prime aujourd'hui dans l'industrie, notamment car il faut noter l'influence de Nir Eyal grâce à son livre Hooked et ses nombreuses conférences qui dépassent largement celles de Fogg. C'est particulièrement le cas dans le monde du numérique et de l'entrepreneuriat où il est une véritable référence.
Que ce soit dans l'optique d'influencer par l'information, de rendre des comportements plus efficaces ou systématiques, comme la prise de médicaments ou la mesure de taux de glycémie pour les personnes atteintes de diabète, ou encore pour accompagner les utilisateurs, comme avec les applications de suivi sportif, les outils captologiques font face à des questions éthiques, en particulier autour de l'exploitation des vulnérabilités cognitives des individus, avec la crainte que ces technologies soient utilisées dans un but de création non pas seulement d'habitudes bénéfiques aux utilisateurs, mais bien de véritables addictions, créant une dépendance vis-à-vis du produit. Tout de suite, on écoute un extrait audio d'un podcast intitulé « Captologie, l'art et la manière de changer les comportements » par l'association Picasoft et qui nous parle des conséquences cognitives de la captologie, notamment autour de la question des notifications.
Ce qu'on a vu récemment au niveau des études sur les mécanismes attentionnels, c'est justement que on pourrait avoir une perte d'attention généralisée à cause de ces systèmes-là. En particulier, les notifications produisent dans le cerveau un changement de contexte, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire quelque chose et le fait de recevoir une notification vous oblige à changer de tâche et ensuite à revenir sur la tâche que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez coûteux pour le cerveau dans la mesure où il est obligé de vider sa mémoire de travail, de se concentrer sur autre chose et de revenir. Donc on a observé expérimentalement une tendance à la distraction et une difficulté de rester attentif chez les utilisateurs de smartphones.
Donc voilà, cet extrait, en plus de résumer une partie de ce qui a été dit précédemment, il permet vraiment de bien souligner la façon dont la captologie vient modifier les comportements.
Passons désormais à notre article. Il s'agit donc d'un article scientifique écrit par Tom Chou et Maria Dorsonia. Je vous fais la traduction du titre, c'est un article écrit en anglais. Un modèle mathématique de l'apprentissage par la récompense dans la toxicomanie. Cet article y présente donc, comme son nom l'indique, une modélisation mathématique des dynamiques autour de l'addiction aux drogues. Et bien qu'à première vue, il ne s'agisse pas d'un article en lien avec le numérique, les enjeux du mécanisme de la dopamine, du cerveau et de l'addiction sont les dénominateurs communs du numérique et de l'étude présente dans cet article. Et un parallèle numérique-drogue se distingue naturellement. Les auteurs se sont donc appuyés sur des concepts issus de la neurobiologie et de la psychiatrie pour construire leur modèle. On va vous en présenter trois, les principaux, en les vulgarisant rapidement grâce à des citations qu'on a traduites. Le premier, c'est l'erreur de prédiction de la récompense, de Reward Prediction Error, qui nous dit « L'erreur de la prédiction de la récompense quantifie les divergences entre une récompense et sa prédiction et joue un rôle majeur dans l'apprentissage. » L'activité neurologique augmente si la récompense est meilleure qu'espérée et diminue autrement.
Le second, c'est donc la théorie de la sensibilisation à l'incitation qui formalise le concept suivant. Les effets sur le cerveau des drogues addictives sont similaires à ceux des récompenses primaires. Les drogues, cependant, amplifient les désirs de manière anormale. La cocaïne, les amphétamines et la morphine agissent plus rapidement et augmentent les niveaux de dopamine 2 à 10 fois plus que la nourriture ou le sexe. Enfin, la théorie des processus opposants qui nous explique que chaque expérience émotionnelle, plaisante ou non, est suivie par une contre-réponse pour réinstaurer l'homéostasie, c'est-à-dire réinstaurer un équilibre. La consommation de drogue induit un processus A qui est marqué par une certaine euphorie, une excitation et du plaisir. Il est ensuite compensé par un processus B qui lui est marqué par des symptômes de sevrage et une nouvelle envie de consommer.
Donc, sans entrer dans une analyse complète des modèles mathématiques présentés, il est important de notifier les différentes fonctions de ces équations différentielles qui ont été utilisées. La première, c'est la réponse du cerveau concernant la motivation à la consommation de drogue, ce qu'ils ont nommé « craving ». La seconde, c'est les différents niveaux de dopamine. Et enfin, on a l'activation du circuit de récompense. Il y a plusieurs autres paramètres qui rentrent en jeu, qu'on ne va pas citer, qui correspondent plus ou moins à différents types de profils de consommateurs. La résultante de la corrélation entre ces différentes équations, elle a permis une première observation intéressante. Les individus qui ont une forte sensibilité au phénomène de mal-être, donc à ce B-process, pendant l'ingestion de la drogue, ce sont les personnes les plus prédisposées au phénomène d'addiction.
Et puis, au-delà de ça, le modèle mathématique, il nous permet aussi de modéliser différents comportements types de consommateurs, notamment à partir donc de leurs caractéristiques neurophysiologiques, comme la vitesse d'habituation et l'intensité des réponses induites. En conséquence, on peut dégager plusieurs types de comportements. On a un premier type de comportement qui sont donc les individus qui retournent à une utilisation modérée après une phase d'augmentation. Ou bien au contraire, on a des individus qui sombrent dans une spirale addictive irréversible. Pour citer l'article, si un consommateur est génétiquement prédisposé à l'addiction ou si la drogue est très addictive, comme dans le cas des méthamphétamines, le nombre de prises nécessaires pour atteindre l'état d'addiction sera faible. Chez les consommateurs plus résistants et ou les substances à dépendance lente, on observe un processus d'addiction qui est plus long.
Enfin, l'article finit par explorer la façon d'alléger les effets du B-process et donc de l'effet de manque, ainsi que les comportements de recherche compulsive de la drogue, notamment par l'utilisation de produits à vertu thérapeutique comme le méthadone, fréquemment utilisé dans le cadre d'addiction aux drogues, dans l'objectif de réduire les effets du B-process et de tenter de sortir de la spirale de récompense. Nous allons maintenant écouter un extrait d'un reportage Arte autour des effets de l'alcool qui ici joue le rôle de la drogue sur le cerveau et notamment sur la réaction du cerveau lorsque la personne souffrant d'alcoolisme est soumise à des photos sur lesquelles de l'alcool est présent. On écoute ça.
L'homme à qui l'on pose des lunettes de protection s'apprête à passer une IRM. Objectif des chercheurs, obtenir des images de son cerveau au moment où on lui présente ses photos. Ce patient est alcoolique. Le professeur Kiefer de l'université d'Heidelberg va observer avec attention son activité cérébrale.
L'expérience consiste à faire passer un IRM à des patients alcoolodépendants en leur montrant des photos de boissons alcoolisées. Cela suffit à rendre visible l'activation du système de récompense. Par exemple, sur cette image IRM, on voit que dans cette région, le système de récompense est activé.
Cet extrait fait directement écho avec les propos de l'extrait précédent. En effet, ici, l'élément déclencheur de l'envie de consommer et qui vient agir comme une distraction, c'est pas la notification, mais c'est la photo. Cet écho nous sert de transition vers la dernière partie de notre article, le parallèle entre les mécanismes régissant la consommation de drogue et les technologies captologiques.
Vous l'aurez donc compris, on va maintenant tenter d'articuler donc le concept de cours qu'on vous a présenté, la captologie, et puis notre article en présentant un parallèle entre les mécanismes qui régissent la consommation de drogue et les technologies captologiques. L'article de Tom Chou et Maria Orznova qu'on vous a présenté, il met en évidence des mécanismes de modification des comportements, de renforcement et d'habituation allant parfois jusqu'à l'addiction, qui ne sont pas sans rappeler les mécanismes propres aux outils captologiques introduits par Fogg. Un parallèle entre les effets induits par la consommation de drogue et les conséquences de l'utilisation de la captologie dans le numérique nous permet de mieux comprendre les différentes pratiques qui peuvent mener à des comportements addictifs. En effet, on retrouve sur de nombreuses plateformes les réseaux sociaux, les jeux mobiles, les applications de sport. Ces plateformes utilisent des mécanismes qui s'apparentent à ceux décrits dans l'addiction aux drogues, notamment lorsqu'il est question de favoriser l'installation d'habitudes chez les utilisateurs, voire l'installation d'une dépendance comportementale.
Transposons alors directement les modèles utilisés dans l'article avec un exemple concret d'une application au cœur des tendances des jeux mobiles, Pokémon TCG. L'utilisateur reçoit une notification. Vous pouvez ouvrir un booster. Ces derniers n'étant disponibles que toutes les 12 heures, renforçant le sentiment de manque et d'attente. On peut faire un parallèle directement avec un individu qui aurait envie de consommer ou qui aurait vu une photo d'alcool. Ensuite, l'utilisateur il ouvre son application, il ouvre son booster, son lot de cartes, et il reçoit des nouvelles cartes, plus ou moins rares, c'est la récompense. Le consommateur il entre en phase donc de A-process. C'est le geste simple, immédiatement ou quasi immédiatement suivi d'une récompense.
Si la plupart des boosters nous font gagner des cartes moyennes ou décevantes, au fil du temps, le cerveau va baisser ses attentes et donc sa dépendance au jeu. Mais le gros gain occasionnel, une carte très très rare ou qu'on attend depuis longtemps, il permet de remettre la balance à zéro et de relancer ce cycle. Le but, c'est de proposer à l'utilisateur des récompenses frustrantes pour éviter qu'il ne se lasse, tout en lui proposant des récompenses hautement satisfaisantes de temps en temps pour le garder captivé. L'objectif est de garder une moyenne qui se situe dans le légèrement meilleur qu'attendu, permettant de créer l'addiction tout en créant aussi une frustration. Revenons au jeu Pokémon TCG. On retrouve d'autres fonctionnalités qui sont présentes dans l'application pour maintenir le plaisir et inciter l'utilisateur à rester sur l'application, comme des récompenses quotidiennes, des systèmes de récompenses additionnelles accessibles via des consommables rechargeables ou encore des combats avec des récompenses. C'est une phase qui est comparable à la phase de maintien du A-process.
L'utilisateur arrive à court de récompenses où ses récompenses ne sont pas assez bonnes, carte décevante, c'est le consommateur qui entre dans la phase de mal-être, donc dans le B-process. Il est peut-être intéressant de dresser la comparaison de ce phénomène d'alternance de récompenses et de frustration au sein des outils captologiques avec la théorie des processus opposants, qui nous dit que chaque expérience positive, elle est compensée systématiquement par son opposant négatif. Cependant, cette comparaison, elle atteint ses limites concernant les rapports notamment de force entre les différents shoots de dopamine, ceux résultant de la consommation de drogue étant beaucoup, mais alors beaucoup plus importants que ceux issus de n'importe quelle autre source de plaisir. Cette phase de B-process, elle est aussi comparable au sentiment d'anxiété numérique, la peur du vide informationnel. L'utilisateur a besoin de façon régulière d'utiliser le produit, ce dernier agissant comme une force de rappel vers le numérique.
Évidemment, le jeu mobile Pokémon TCG, ce n'est pas le seul représentant de ce parallèle qui peut être généralisé à de nombreux autres outils. L'alternance entre gratification immédiate, suivie presque immédiatement directement par une phase de vide ou de manque, avec un ennui, des récompenses décevantes, résulte en une alternance d'émotions positives et négatives qui alimente une boucle en rétroaction continue. Je scrolle, je tombe sur un contenu qui me plaît, je continue jusqu'à ce qu'un nouveau contenu me plaise malgré l'ennui, et cela sans interruption.
Aussi, le concept d'erreur de la prédiction, présent dans l'article, est aussi exploité dans les algorithmes des outils captologiques. Les plateformes font varier le niveau de récompense et donc le niveau de satisfaction afin de le maintenir constamment, de façon alternée entre plaisir et frustration, dans l'objectif de maintenir le plus haut niveau d'incertitude, et donc de, tout comme la drogue, maximiser la sécrétion de dopamine. Les graphiques présents dans l'article montrent clairement une augmentation de l'intensité des pics de dopamine. Un coup j'ai une carte très rare, l'autre coup une que j'ai déjà eu plein de fois.
Et puis finalement, et nous vous laisserons sur ces quelques mots, au même titre que la drogue, l'environnement captologique est lui aussi auto-renforçant. C'est-à-dire qu'il joue sur les mêmes mécaniques d'alternance, de récompense et de frustration. Il est utile de préciser que, pour l'heure, il est dépourvu quand même de caractère de dépendance neurobiologique, bien que cet environnement, il suit tout de même des mécaniques capitalisant sur les fragilités affectives et cognitives des utilisateurs. En définitive, on peut dire que drogue et numérique n'ont jamais été aussi indissociables.
Merci beaucoup Jimmy et Titouan pour cette perspective originale. Et du coup, c'est l'heure de terminer cette émission qui, pour rappel, est le fruit du travail des étudiantes et des étudiants du cours WE01 à l'UTC et du projet LibreCours.net. Elle était diffusée en direct depuis une studio de Graphite le 11 juin 2025 et vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur tube.picasoft.net avec l'ensemble des sources utilisées. Merci pour votre écoute, bon après-midi et au revoir à toutes et à tous.